continuer avec Gérard Mauger, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, Santé NRS aussi.
Merci.
EHSS, merci.
Merci beaucoup. J'ai conscience de la difficulté de l'exercice auquel je suis convié, parler de la sociologie de la délinquance juvénile en un quart d'heure. Bon, c'est pas tout à fait évident, d'autant plus que je me sens obligé de commencer par un petit prologue. Voilà.
Vous entendez, pardon ?
Plus fort, ouais, d'accord. Dans la perspective de la sociologie des professions qui est la sienne, Andrew Abbott considère que, à juste titre, je crois, que la question de la délinquance juvénile confronte en fait différentes catégories de professionnels dans la compétition et aussi dans la coopération. J'essaie d'expliciter un tout petit peu ce que je viens de dire. La question de la délinquance fut longtemps un monopole des professionnels du droit. C'est par le droit qu'Émile Durkheim, par exemple, définissait le crime. Nous appelons crime tout acte puni, disait-il. Du point de vue de ces professionnels du droit, la notion de responsabilité est fondatrice, littéralement, celle qu'ils empruntent à Beccaria des délits et des peines. Mais les professionnels du droit et de la justice furent amenés au fil du temps à concéder d'abord l'excuse de la folie. Et ce faisant, une partie de ce que Abbott appelle leur territoire professionnel aux professionnels de la psychiatrie. C'est la loi de 1838, c'est fort ancien déjà, mais c'était un élément tout à fait fondamental. C'est la première fois qu'ils concèdent une partie de leur territoire à d'autres professionnels qu'eux-mêmes. Puis, deuxième concession, il n'y en a pas eu d'autres d'ailleurs, je crois, puis celle de l'âge, avec la loi de 1912, puis l'ordonnance de 1945, au motif de l'absence de discernement et de l'éducabilité du mineur, autorisant ainsi l'accès de ce nouveau territoire juvénile, en l'occurrence, aux psychiatres, psychanalystes, psychologues, etc., et au travail social qui s'en inspire. Quant à la sociologie de la délinquance, donc, je suis porte-parole ici, quant à la sociologie de la délinquance, elle est contemporaine de la naissance de la discipline. Je citais Durkheim à l'instant, un des thèmes fondateurs de la sociologie a été justement la sociologie du droit et la sociologie de la délinquance. Et pourtant, pour autant, la sociologie de la délinquance, ou la sociologie tout court, n'a jamais eu qu'une place de parent pauvre dans ce concert professionnel qui s'occupe de délinquance. Elle était au mieux chargée d'expliciter le contexte social dans une perspective, qu'on peut dire, psychosociologique dominante à propos des jeunes à partir de l'ordonnance de 1945, et au pire, elle se voit accusée de mettre en avant des excuses sociologiques, comme l'a dit il y a quelque temps l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, et comme le reprenait il n'y a pas longtemps Manuel Valls à propos de la sociologie avec ses excuses. Voilà. On pourrait rendre compte sociologiquement de cette position dominée de la sociologie. Mais bon, je pense que c'est ni le moment ni le lieu. Je voudrais simplement rappeler que la sociologie de la délinquance juvénile est presque aussi vieille que le phénomène lui-même. Des Apaches d'autrefois, au début du siècle, aux blousons noirs, des blousons noirs aux racailles d'aujourd'hui, et que l'étude sociologique de ce phénomène conduit à mettre en évidence à la fois des variations, mais aussi des invariants. À vrai dire, il y a un tas de constantes entre les blousons noirs des années 50 et ceux d'aujourd'hui, mais on les a simplement oubliés. Bien, je voudrais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous donner donc un aperçu de ce que la sociologie a à dire de la délinquance juvénile contemporaine, ou plus précisément, essayer d'indiquer les grandes lignes de ce que peut être une sociogenèse des trajectoires délinquantes, comment on devient délinquant. Voilà, je commence de nouveau par un tout petit prologue qui me semble nécessaire, au moins pour indiquer la perspective qui est celle des sociologues. Elle me semble nécessaire pour comprendre cette sociogenèse. Donc il me semble nécessaire d'indiquer le contexte, peut-on dire encore, dans lequel se produit, se déroule ces carrières délinquantes. Voilà, je crois qu'il faut la resituer, cette sociogenèse des trajectoires délinquantes, dans le cadre de ce qu'on peut appeler une crise de reproduction des classes populaires, qui se déroule sur le temps long depuis au moins la deuxième moitié des années 70. Alors j'essaye de l'évoquer très très rapidement, mais gardez ça en tête pour comprendre ce que je dirai après. On peut la caractériser à la fois par une transformation profonde du marché du travail. Celle que vous connaissez, vous en avez tous entendu parler, la désindustrialisation, le chômage de masse, la précarisation, la tertiarisation croissante aussi des emplois non qualifiés. On parle d'ouvriers de service aujourd'hui. Deuxième type de transformation morphologique qui me semble tout à fait essentiel pour comprendre le phénomène dont je parle, les transformations de l'espace résidentiel. Pour le dire en un mot, je n'ai pas le temps de développer, on est passé de ce qu'on appelait autrefois les banlieues rouges aux quartiers sensibles. Et bon, voilà, c'est pas pareil, qu'est-ce qui s'est passé ? Transformation aussi, et ça me semble tout à fait essentiel, du système scolaire. Pour le décrire là aussi très très rapidement en un mot, mais ça me semble très important, il y a eu une espèce de croissance des taux de scolarisation, mais en même temps, parallèlement, une translation globale des écarts, ce qui bien qu'on a à la fois les apparences de la démocratisation et la réalité de la reproduction. Transformation, enfin, ou pas tout à fait enfin, transformation de l'encadrement, pourrait-on dire, des jeunes des classes populaires. Au fond, une espèce de substitution de l'encadrement étatique associé aux politiques d'insertion, aux politiques de la ville, aux politiques sécuritaires, etc., à ce qu'était autrefois un encadrement politique, syndical, associatif, celui des banlieues rouges, dont je parlais à l'instant. Transformation en parallèle aussi de l'offre ad hoc de biens symboliques, de l'offre pour jeunes des biens symboliques. On parlait tout à l'heure de Facebook, voilà un aspect, mais c'est évidemment pas le seul. Enfin, peut-être un autre élément qui me semble important pour comprendre ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est aussi l'implantation, il faut bien le dire, de ce qu'on appelle le business en termes indigènes, hein, l'implantation d'une économie souterraine qui s'est fait jour un peu partout dans ces quartiers difficiles dont on parle et dont je vais parler maintenant. J'en viens donc, en essayant de faire bref, moi je vais faire très bref, de la sociogénèse des trajectoires délinquantes. Alors comment essayer d'indiquer comment on peut essayer, bon, sociologiquement, de rendre compte de ces carrières. Je vais le faire en trois points, oui. Je vais partir de voilà, comment ça se déroule, une trajectoire biographique, ben, d'abord dans une famille, puis on va à l'école, puis on va au travail. Et on peut finir délinquant, voilà, ce sera grosso modo mon plan. Alors, la famille. Voilà, alors la famille. Ces jeunes délinquants, pour faire vite, se recrutent massivement dans le cadre des familles de classe populaire, en général les plus vulnérables. Il y a là, bien sûr, un terrain de rencontre avec les psychologues, psychiatres, puis canalistes, bon, sur, on rencontre la thématique de la dissociation familiale, de la carence affective précoce dont on parlait juste à l'instant. Il y a là donc la carence maternelle ou paternelle, ça dépend des moments, on insiste tantôt sur l'une plutôt puis sur l'autre, bon, le thème de la perte des repères, comme on dit, etc. Bon, voilà, il y a des problèmes du côté de papa et maman. On peut se mettre d'accord là-dessus, peut-être on n'en parlerait pas dans les mêmes termes, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cet aspect-là. Ceci dit, là où la sociologie crée un écart, c'est qu'elle s'intéresse à deux aspects qui semblent tout à fait sociologiquement essentiels. Le premier, on pourrait l'appeler le déficit de capital économique qui caractérise ces familles. Le second, c'est le déficit de capital culturel. Je vais expliciter un petit peu ce que je viens de dire là. Ces familles sont, de façon générique, donc côté capital économique, plus ou moins désaffiliées, comme disait Robert Castel, de la société salariale. Ce n'est pas celles qui vont économiquement le mieux. Ce n'est pas l'univers des ouvriers stables, pavillonnaires, installés, etc. C'est plutôt l'univers des ouvriers de cité, comme pourrait-on dire, c'est-à-dire menacés constamment par le chômage, l'intérim, la précarité, etc. Ça a des conséquences pratiques. Cette situation de travail, c'est bien souvent la vie au jour le jour, pourrait-on dire, et ce qui veut dire aussi sans perspective d'avenir. Sans perspective d'avenir, ça veut dire aussi un rapport au temps très très défavorable par rapport à la réussite scolaire, à ce qui suppose par exemple de se projeter dans l'avenir. C'est aussi plus trivialement dans ce type de famille, les emplois avec des horaires décalés. Voilà, les mères qui commencent à 5h du matin pour aller nettoyer les hôtels ou les bureaux, donc ils ne sont pas là quand les enfants se lèvent et vont à l'école, etc. Donc voilà, ça crée des difficultés évidentes, par exemple celle de la surveillance parentale. On dit bien souvent dans ces cas-là que les enfants sont livrés à eux-mêmes, et pour cause, voilà, les parents ne sont pas là. Voilà. Donc il y a les grands pour s'occuper des petits en mettant les choses au mieux. Bon, on pourrait poursuivre Je veux simplement indiquer, grosso modo, une perspective. La deuxième, qui me semble aussi tout à fait importante, c'est la question du déficit de capital culturel. Alors, c'est du jargon de sociologue, mais bon, on peut comprendre assez facilement ce que ça veut dire. Déficit de capital culturel, ça veut dire d'abord des choses triviales, comme l'absence d'informations sur le fonctionnement du système scolaire. Les gens ne connaissent pas les établissements, leur hiérarchie, les filières différenciées du système scolaire, etc. Bon, c'est un mystère pour eux, et pour cause, ils n'y sont pas allés, donc ils ne connaissent pas, quand même, bien souvent. C'est aussi, c'est facile à comprendre également, l'absence de savoir et de savoir-faire culturel légitime. Bon, voilà, c'est-à-dire que ce que peuvent transmettre un prof, vous savez tous, ceux qui réussissent le mieux à l'école sont les enfants d'enseignants. Bon, pas très compliqué à comprendre, hein. Grosso modo, ils sont à l'école tout le temps, donc ils ne sont pas dépaysés quand ils vont à l'école. Bon, voilà, c'est assez simple. Bien, donc, absence de savoir et de savoir-faire culturel légitime, mais aussi, alors voilà, c'est le dernier point sur lequel je vais insister, qui me semble le plus important, sans doute, la langue parlée et transmise, c'est-à-dire le lexique, la syntaxe, l'accent aussi, donc cette langue qu'ils transmettent à leurs enfants est une langue scolairement disqualifiée. Voilà. Une langue à l'école, ça ne vaut pas un clou, quoi. Si vous parlez la langue que parlent vos parents, ces parents-là, ça ne va pas faire l'affaire. En gros, en quelque sorte, le capital culturel hérité fonctionne à l'école comme un handicap. Voilà. Ça ne veut pas dire que les familles ne sont pas mobilisées par rapport à l'école. Elles ont toutes compris que l'école, c'était important pour réussir dans la vie, pour que leurs enfants réussissent dans la vie. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une mobilisation, pourrait-on dire, désarmée, impuissante, parce que voilà, ils n'ont pas ce qu'il faut. Je reviens au deuxième point, l'école. Donc, la suite du film. L'école est, parallèlement, je vais y venir dans un instant, ce qu'on peut appeler l'apprentissage de la culture de rue. Dans les conditions que je viens d'expliciter, très sommairement, on peut comprendre que l'échec scolaire est probable. Bon, l'échec scolaire est donc aussi ce qu'il implique, le désinvestissement. Alors, premier aspect, du fait d'un phénomène très général, dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui on peut appeler la ségrégation sociale, qui est aussi spatiale. Cette ségrégation sociale spatiale est aussi une ségrégation scolaire. Elle aboutit au fait que, grosso modo, on aboutit au regroupement des enfants les plus démunis. De la même façon, d'ailleurs, que parallèlement, il y a un regroupement des héritiers, pourrait-on dire. Ils sont tous agglutinés autour des grands lycées, Henri IV ou Louis-le-Grand. Vous voyez, Paris, c'est particulièrement visible, quoi. Bon, et l'envers est aussi particulièrement visible. Bien. Deuxième aspect, ce handicap culturel, cette transmission d'héritage dont je parlais tout à l'heure, qui fonctionne plutôt comme un handicap, est au principe, bien sûr, de difficultés d'apprentissage précoce. Les enfants ont du mal, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas à l'école la langue qu'ils parlent eux, avec leurs copains et leurs parents. Quoi. Et ça crée des difficultés. Difficultés d'apprentissage précoce partout vérifiables. Je vais vite. Le deuxième élément qui me semble tout à fait important, c'est que l'école... On retrouve la place de l'institution scolaire. L'école va attribuer ses difficultés à l'individu. On va lui dire, en substance, assez vite, t'es nul. C'est terrible, t'es nul. C'est une chose, c'est une sentence, il faut se rendre compte que la portée symbolique est effroyable. T'es nul, c'est une espèce de sanction métaphysique. T'es nul, t'es rien, quoi. Hein, tu n'existes pas, littéralement. C'est cruel, quoi. C'est tout à fait cruel. Bon, ce genre de sanction a, je caricature un peu, hein, bien sûr, mais bon, faut aller vite, quoi, va engendrer, bien sûr, une espèce d'hypoactivité scolaire. Bon, enfin, il n'y arrive pas, et en plus, il se fait insulter, bon, il va se retirer, en quelque sorte, de l'école, et évidemment, c'était retrait progressif de l'école, va pas arranger les choses. Plus il se retire, moins il travaille, moi ça va de plus en plus mal. Les difficultés s'aggravent. De ce fait, on peut dire que sa présence sur les bancs de l'école va lui apparaître de plus en plus comme inutile, ça sert à rien, je progresse pas, je suis toujours nul, et humiliante aussi. Bien. D'où un espèce de sentiment d'indignité, on pourrait parler, pour parler comme les psys, de dépression scolaire, en quelque sorte. C'est un désastre, quoi. Bon, et tout ça, bien sûr, renforce l'échec. Alors, ça a une conséquence, il me semble tout à fait importante, en tout cas pour les garçons. Ce sentiment de vacuité et d'humiliation dans le cadre scolaire va aboutir à quoi ? Au regroupement de ceux qui sont dans cette situation d'échec, le regroupement qui vont de moins en moins souvent à l'école, ils n'ont pas très envie d'y aller, quoi. Donc s'ils peuvent s'en échapper, ils sont ravis, ils peuvent pas, pardon, et ils se retrouvent entre eux. Quoi. Les gamins, bon, et voilà, qui sont au collège et combien du mal, vont alors faire ensemble... Alors c'est une longue tradition, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, des bandes de jeunes depuis... avant l'ancien régime, vont faire une espèce d'apprentissage collectif de conduite virile, y intérioriser des valeurs de virilité. Alors, qui s'opère comment ? Au fil d'affrontements verbaux ou physiques, les vannes et les bastons, comme ils disent, à l'intérieur de la bande de leurs petits copains, entre les bandes, celles d'à côté, plus tard avec la police, d'ailleurs, qui perçoivent souvent comme une espèce de bande rivale, un peu simplement équipée d'un matériel spécifique. Bon, voilà. Alors, bien sûr, c'est aussi des pratiques masculines. Hein. Ça concerne les garçons. Pour les filles, ça se passe aussi, mais différemment. Moi, j'ai pas le temps. Bon, voilà. Voilà, donc voilà, ça me semble très très important. Bon, c'est l'apprentissage donc collectif de conduite de virilité, être un homme, un vrai, rouler sa caisse, etc. Bon, ce qu'on peut dire en jargonnant un peu comme un sociologue, on va procéder à une espèce d'accumulation à la fois individuelle et collective de ce qu'on va appeler un capital agonistique, c'est-à-dire la capacité de se battre, de faire face, etc., qui fait très vite les réputations locales, hein, c'est des vrais, des durs, et le respect, comme ils disent. Bon, au fond, il s'agit dans cet univers des petits copains, de la bande, du groupe de pères, d'obtenir la reconnaissance de la bande. Et cette reconnaissance de la bande, ça me semble important, va fonctionner comme une espèce de compensation symbolique de la disqualification par l'école. C'est-à-dire que, voilà, dans une espèce d'économie du capital symbolique qui me semble tout à fait importante à saisir, c'est là où je suis disqualifié par la famille qui dit que je suis un garnement, un voyou qui ne travaille pas bien à l'école, par l'école qui me dit que je suis nul, etc. J'aime refaire une santé symbolique, en quelque sorte, avec mes petits camarades. Donc on peut comprendre ça, je crois, comme une tentative de restauration de l'estime de soi qui a été mise à mal par la disqualification scolaire. Alors, deuxième étape, enfin, l'étape suivante, ce sera, on est toujours à l'école, hein, on y va toujours un peu à l'école, ce sera deuxième moment qui sera l'investissement de ce capital agonistique dans l'espace scolaire et produisant ce qu'on appelle en langage de professionnel le décrochage scolaire. Voilà. Donc, grosso modo, ces mômes vont... Alors, ça se passe simultanément, bien sûr, mais je suis obligé de le dire en deux temps. On va importer, en quelque sorte, la culture de rue qu'on a appris dans l'espace scolaire. Bon, se déploie alors une espèce de jeu particulier qu'on peut caractériser par l'émulation dans l'indiscipline, hein, où on va disqualifier ceux qu'ils appellent les bouffons, les bolos, les intellos, c'est une vieille histoire, c'est les faillots de Paul Willis. Bon. Voilà, donc on va de plus en plus, ceux dont je parle, vont perturber de plus en plus l'ordre scolaire, ce qui va renforcer l'échec, bien sûr, bon, ils font rien, ils font le bazar, bon, et la disqualification. Bien. Mais il faut comprendre, voilà, ça n'a de sens que si on comprend que l'insoumission scolaire est un trophée dans la bande de potes, quoi. C'est au contraire, là, on se refait une santé en même temps qu'on se disqualifie, quoi. Voilà, c'est les deux jours en même temps. Donc il y a une espèce d'engrenage, hein, qui se met en place, où on va devenir d'ailleurs d'un adolescent en difficulté d'apprentissage scolaire à un adolescent difficile, quoi. Difficile à gérer, presque d'abord pour les profs, quoi. Bon, voilà, quand ils sont confrontés à ces lascars, c'est un peu problématique. Bon, donc au fait, se met en place, ouais, vous avez compris, je crois, un engrenage qui va être au principe de l'accumulation de ce qu'on pourrait appeler un espèce de casier scolaire, hein, qui prélude de casier judiciaire, on va en parler dans un instant. Bon, le résultat, c'est la sortie sans diplôme du système scolaire, la sortie précoce et sans diplôme du système scolaire. Bon, c'était grosso modo quand même près de 20% d'une génération jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On est le dernier chiffre, 17%, quoi, quand même, qui sortent de l'école avec rien du tout, quoi. Bon, et, sans compter ceux qui sortent avec pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire des CAP qui ne valent pas un clou sur le marché du travail. J'en viens au travail. Puisque travail et culture de rue. Alors, au fond, on a là, quand ces jeunes sont sortis de l'école, qui débarquent sur le marché du travail, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a d'abord un mécanisme objectif très très simple, c'est, bon, l'apprentissage, l'absence de capital scolaire, de toute ressource scolaire, de ceux qui, en quelque sorte, se retrouvent, comme d'autres depuis bien longtemps, à n'avoir que leurs bras à vendre sur le marché du travail, sont voués, de fait, au chômage. C'est comme ça, et ou à des petits boulots précaires de jeunes à tout faire. En fait, va apparaître comme ça, et apparaît maintenant depuis une trentaine d'années, l'apparition de nouvelles figures, l'espèce de le stagiaire perpétuel, quoi, à coup de mission locale, etc. Voilà, on a une espèce de mec qui ouais, est en stage, quoi. Bon, voilà, c'est, il ne sait pas jusqu'à quand, ça risque de durer fort longtemps. Ce mécanisme objectif se redouble alors, et ça me semble important aussi à comprendre, d'un espèce de mécanisme subjectif tout à fait essentiel. En fait, je crois que tout se passe comme si ces jeunes, on refuse les emplois qui les refusent, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller bosser non plus dans ces emplois qui ne veulent pas d'eux non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de jeu complexe, hein, où, en fait, il faut tenter de rendre compte l'aversion croissante de ces jeunes pour les emplois qu'on leur pourrait éventuellement leur proposer, des emplois de service subalternes et qui s'avèrent de plus en plus inaccessibles. Bon, alors à la fois parce qu'ils subissent la concurrence de ceux qui ont justement un petit diplôme, qui sont un petit peu au-dessus, quoi, donc on va les prendre préférentiellement à eux, mais aussi parce qu'il y a une espèce d'écart qui s'est creusé de plus en plus entre les dispositions requises pour ces métiers d'ouvriers de service, comme coursier, agent de nettoyage, employé de maison, etc. C'est des emplois auxquels ils pourraient éventuellement prétendre, mais c'est des emplois aussi, ou même d'ailleurs ceux d'usines modernes, où on veut des ouvriers flexibles, disponibles, etc. Bon, ça, présentant bien, sachant parler comme il faut au chef et répondre comme il faut, etc., qui, finalement, des emplois donc, qui se sont eux-mêmes profondément transformés, et de sorte que les dispositions viriles, pour les sacs, machin, etc., dont ils sont porteurs, sont devenus complètement inopérantes, en quelque sorte, ou même contradictoires par rapport au type d'emploi auquel ils pourraient éventuellement prétendre. Donc voilà, retenez ça, il faudrait développer, là aussi, mais il y a une espèce de tension, vous voyez, c'est à la fois les emplois auxquels ils pourraient éventuellement prétendre sont des emplois dont ils ne veulent pas pour d'autres raisons, compte tenu de ce qu'ils sont devenus, déjà, voilà. Alors, j'ai presque fini. Ça va finir mal, mon histoire.
C'est le but.
Voilà, j'y vais tout droit. Chômage et investissement dans le business. Bon, quelles sont les conséquences de ce qu'on appelle des difficultés d'insertion professionnelle ? Voilà, facile à comprendre. Hein. Ben, ils vont se retrouver en stationnement prolongé et à plein temps dans ce monde des bandes, celui de leurs potes, là, bon, voilà, qu'ils ont depuis l'école, bon, qu'ils ont depuis longtemps, dans une situation sociale particulière d'inaffectation. Ils sont affectés à rien, quoi. Là, avant, ils étaient plus ou moins affectés à l'école, ils n'y avaient pas beaucoup, mais enfin bon, voilà. Et là, ils vont au boulot, ben non, ils n'y vont pas non plus, donc ils sont inaffectés. D'ailleurs, quand on dit, vous voyez, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, il faut dire de plus en plus vieux, hein, c'est parce que ça dure, quoi, vous voyez, ça dure jusqu'à 30 balais, quoi, hein, c'est à peu près, quoi, c'est à peu près l'âge où ça change, mais je n'aurai pas le temps d'en parler. Bon, donc ils vont se trouver en stationnement prolongé à plein temps dans le monde des bandes, sans un rond, évidemment, parce que bon, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent, et leurs parents, ils ne peuvent quand même pas les taper comme ça, parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas d'argent. Et donc, on va se trouver en situation, en quelque sorte, de rechercher des alternatives au salariat. D'où, vous voyez venir, leur investissement croissant, progressif, dans ce qu'ils appellent le business. Voilà. Le business, c'est cette économie dont je disais, rappelez-vous tout à l'heure, qu'elle s'était implantée dans ces quartiers, ça existe, ouais, voilà, il y a une offre d'emploi illégal qui est disponible, accessible, parce qu'ils connaissent les mecs, bon, voilà, ils ont les capacités, peut-être, en tout cas, s'ils ont un peu suffisamment de capacités viriles, justement, hein, être un homme, un vrai, capable de faire face, machin, etc., bon, ils ont les ressources théoriquement adéquates, donc ils vont pouvoir s'investir dans le business. Alors, ça leur permet de sauver la face, comme dit Goffman, c'est-à-dire de rechercher les attributs statutaires de ce que c'est un vrai jeune, quoi, bon, c'est être fringué comme il faut, machin, etc. Bon, et ils vont, dans cet univers-là, très particulier, qui est l'univers du deal, intérioriser petit à petit ce qu'on peut appeler l'esprit du capitalisme, pour parler comme Max Weber, mais l'esprit du capitalisme underground, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre, parce que, bon, faut apprendre à vivre dans cette espèce d'économie illégale, donc ils vont apprendre petit à petit. Ça a une conséquence, à mon avis, majeure, par rapport au passé, là, pour le coup, vous voyez, les blousons noirs ou les loupards des années 70 sur lesquels j'avais travaillé, c'est que cette économie parallèle, le deal, le business, comme ils disent, a cette caractéristique qu'elle implique une porosité beaucoup plus grande du monde des bandes d'autrefois, resté le même que celui d'autrefois, par rapport au milieu de la délinquance professionnelle. Et pour cause, parce que l'économie de la drogue, ça impose effectivement, ça implique, hein, une structure hiérarchisée qui met en contact le petit dealer de base, le guetteur, machin, etc., avec une hiérarchie, hein, d'un monde qui est extrêmement hiérarchisé, et qui facilite de la sorte le passage de l'amateurisme au professionnalisme, ce qui est sans doute un des changements, à mon avis, tout à fait essentiels dans l'univers de la délinquance juvénile. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention.